Des Apaches, c'était la rue, la fascination des voyous et des artistes, et le musical, le Nickelodeon. Et là, on est du côté vraiment du conte oriental tel qu'on et de l'Orient un peu tel qu'on le rêve, et en même temps dans ça aussi dans sa réalité. Mais tout est possible dans le conte, donc il y a une morale très élastique, il y a des personnages qui sont à la fois dans le conte et en dehors du conte. C'est à la, il y a à la fois Morgiane. Celle qui est dans l'histoire et Scheherazade, celle qui invente l'histoire. Donc ces passages, voilà, c'est l'absolue fiction, donc vraiment du merveilleux aussi, du merveilleux qui prendra des formes un peu surprenantes.
Après les Apaches, la nouvelle création de Masha Makeyev, metteuse en scène et directrice du Théâtre National de Marseille La Criée, sera Ali Baba, un conte tiré des Mille et Une Nuits. Une création où l'on retrouvera une bonne partie des comédiens des Apaches, parmi lesquels Braulio Bandera, Canaan Marguerite, Romuald Bruno, Philippe Borosek et Aurélien Mussard. Un Ali Baba qui, comme les Apaches, conjuguera danse, acrobatie, théâtre, musique et cinéma. Ali Baba de Masha Makeyev sera créé à La Criée en mars 2013, sur la grenouille un feuilleton, dans la caverne d'Ali Baba, feuilleton imaginé en partenariat avec le Théâtre de La Criée, un feuilleton qui vous propose de partager chaque mois, de décembre à mars, les étapes de fabrication de ce spectacle à venir. Dans la caverne d'Ali Baba, troisième épisode avec Elias Sambar, écrivain, poète, diplomate. Elias Sambar qui a travaillé avec Masha Makeyev à l'adaptation du conte pour le spectacle. Elias Sambar, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission autour d'Ali Baba, montée par Masha Makeyev à Marseille. Donc, je rappelle que vous êtes écrivain, poète et diplomate. Vous êtes ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. L'un de vos derniers livres s'appelle Dictionnaire amoureux de la Palestine. Et je crois que vous en avez écrit un aussi avec Stéphane Hessel.
Exactement, dont le titre est Le rescapé et l'exilé.
Vous avez également été très proche de Mahmoud Darwish, le poète. Oui. On voit que vous avez un rapport à la littérature, à la poésie très affirmé. Est-ce que le rapport au spectacle vivant, c'est quelque chose que vous avez déjà exploré, connu, ou c'est un peu une première pour vous, avec Ali Baba?
C'est une première et ça n'en est pas une. C'est-à-dire que j'ai déjà pas mal travaillé sur des projets de films. Qui est pas du théâtre, mais qui est quand même un peu dans le même registre, on va dire. Et là, c'est la première fois que je travaille avec Masha Makeyev, donc à l'adaptation d'un texte.
Comment s'est passée la rencontre avec Masha Makeyev? Comment ça s'est fait?
Oh, c'est-à-dire, elle n'a pas commencé avec Ali Baba, c'est des relations d'amitié personnelles. Et quand elle a eu le projet, elle m'a contacté pour me demander si on pouvait le faire ensemble. Bien sûr, je le fais avec grand plaisir. J'ai dit oui.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette proposition?
Oh, c'est une très très belle aventure. Pas simplement l'intérêt de la proposition, c'est le fait de partir d'un texte extrêmement connu, qui vient d'un corpus, d'un livre qui sont Les Mille et Une Nuits, qui est une sorte de corpus au planétaire. Il y a très très peu de gens sur la planète qui n'ont pas à un moment ou un autre entendu un des contes, un des récits, ou entendu parler de l'un des personnages. des nuits. Et donc, ce qui était très très intéressant, c'est comment passer d'une forme qui est celle du récit oral de l'histoire, hein, raconter une histoire, comment on pouvait là passer à cette forme d'adaptation pour le théâtre, et surtout voir à quel point cette forme qui est celle des nuits pouvait permettre d'aller dans beaucoup beaucoup de voies. Et beaucoup d'ouvrir beaucoup de portes, vous voyez, à partir de ce texte. C'est donc une expérience extrêmement intéressante à tenter, pas simplement dans le fait de passer du conte à la scène, mais le conte lui-même est une, comment dire, comme une structure, un squelette ouvert, à partir duquel vous pouvez vous-même vous échapper dans plusieurs directions. Ce ne sont pas des formes fermées, des formes closes, vous voyez. Et d'ailleurs, on le voit, parce que quand on connaît les nuits comme elles sont pratiquées, c'est-à-dire quand elles sont racontées, puisque c'est comme ça qu'elles se pratiquent, c'est beaucoup plus un texte qu'on entend qu'un texte qu'on lit normalement, eh bien, on voit à quel point les conteurs, les lecteurs, ceux qui disent les nuits, à quel point ils avaient une forme de liberté de mouvement, si vous voulez, qui leur permettait d'aller beaucoup plus loin et ailleurs, en permanence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaissait les très bons conteurs, ceux qui arrivaient précisément à bouger un peu.
Et toi, boutiquier, chéri, lâche d'avoir l'œil et le bon. Va d'embrouille sous la tambouche. Tu surveilles l'emplacement jusqu'à mon retour. Une petite affaire à régler avec les Chinois. Je reviens au matin. Et décollage à l'heure dite. Ok ?
Ok !
Tout il sait obéir, seigneur des salamandres, sur ma tête et sur mes yeux. Je le promets.
Tout embrouilleur est puni de mort. Don't forget that. Tu connais l'éternel tarif. Ça! Don't forget that.
Et donc vous, Elias Embarque, à partir de cette liberté de mouvement, donc quelles sont les principales transformations que vous avez opérées sur ce conte, ou adaptation, on va dire plutôt ce terme-là?
C'est vraiment la question qu'il faut laisser pour la représentation elle-même, hein, pour voir un peu ce que cette tentative, après tout, on a fait un essai aura donné. Mais surtout montrer à quel point ces textes sont ouverts et à quel point ils permettent à l'imagination, si vous voulez, d'être beaucoup plus active que dans des textes plus classiques, disons, plus habituels, hein, dans des formes plus habituelles. Et ça a été une très très belle expérience pour nous, parce que elle permettait, si vous voulez, une forme de mouvement, hein, d'aller et de venir, hein, dans le texte. Et ça n'est pas toujours donné, hein, ce genre de possibilités. Donc voilà un peu, si vous voulez, très très schématiquement. Le reste, c'est pas pour ne pas vous en parler, mais le reste, il faut, dans une expérience comme celle-ci, il faut fondamentalement, avant tout, je dirais, juger sur pièce, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, quelle liberté les adaptateurs ont pris avec le texte, et à partir de là, vous avez un peu la réponse, si vous voulez, à la question que vous me posez. Parce que ce qu'il faut quand même dire dans l'usage des nuits traditionnellement, et moi par exemple, du fait un peu de mon histoire personnelle, ce sont des contes que j'ai lus très 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 tard, parce que j'avais jamais éprouvé le besoin de les lire. Ces contes, je les ai connus parce que je les ai entendus. Et c'est comme ça qu'on les découvrait dans la tradition, disons, orientale. On les entend, c'est des conteurs. Et je les ai lus qu'une fois adulte, c'est-à-dire une fois que je commençais à réfléchir sur le mode, beaucoup plus qu'une période où je me disais, qu'est-ce que c'est que les nuits, je voudrais apprendre, connaître. Je les connaissais par la voix. Alors, pour moi, personnellement, par exemple, et certainement pas le même rapport ou la même histoire qu'a eu Masha Makeyev avec ses textes, parce qu'elle vient d'une autre culture. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'on pouvait en faire et ce que ça amenait par rapport à une histoire. Or, je sais, moi, dans l'expérience que j'en ai, c'est que beaucoup des raconteurs, on va dire, hein, ceux qui racontent, qui m'ont fait connaître les nuits, inventaient énormément de choses. Et j'ai découvert après coup que beaucoup de choses que j'avais entendues n'étaient pas dans les nuits, mais étaient l'apport que le conteur amenait à chaque fois qu'il se saisissait de ce texte. Et c'est pour ça que ce texte est formidable. C'est pas simplement parce qu'il y a toute la beauté, il y a du rêve, il y a des aspects très très sympathiques. C'est pas seulement cela. C'est aussi parce qu'il permet précisément de sortir des chemins battus. Mais ça, moi, quand j'étais enfant, quand j'entendais tout ça, et même adulte après, parce que j'ai beaucoup fréquenté ce qu'on appelait les hakawati, c'est-à-dire les conteurs de café, où on allait, et qui ont disparu il y a vraiment très très peu longtemps. Il y avait encore une grande pratique de Hakawati jusqu'à il y a quelques années. Eh bien, ce qui était formidable dans tout ça, c'était que finalement, moi, ce que j'ai entendu raconter, je pensais que c'était ça. Sauf que souvent, ça changeait, la même histoire changeait d'une soirée à l'autre, parce qu'il y avait des petits apports, des petits ajouts, et surtout, parce que très très souvent, le conteur mettait, il y avait, si vous voulez, la place de la voix dans le travail. Et là, on a mis d'autres voix. Vous voyez, on a mis nos voix, sans prétention, mais on a mis nos voix, parce que c'est ça qu'on s'est permis aussi, d'ajouter. Et de voir donc tout ça, de voir ce que ça donnera, de voir si on était dans le ton juste. Et surtout de bien montrer à quel point ces contes permettent à l'imagination, si vous voulez, d'aller très très loin, très très loin. Donc c'est beaucoup plus une chose en gestation, une chose qui est en marche, qui m'a intéressé à moi, et que j'espère sera rendu par le travail lui-même.
Vous écoutez les 3-8, c'est dans la caverne d'Ali Baba, troisième épisode d'un feuilleton imaginé en partenariat avec le Théâtre National de Marseille La Criée, un feuilleton qui accompagne la création d'Ali Baba, un spectacle de Masha Makeyev.
Venir des Sénégalais mesurant chacun 1,80 m.
Elias Ambar, quelle est l'importance du conte aujourd'hui dans les sociétés arabes? Est-ce que c'est quelque chose qui se renouvelle? Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y a de moins en moins de gens qui racontent les contes dans...
Ce dont je vous parlais était un cadre bien, bien précis, qui est le cadre du café, avec ce qu'on appelle le hakawati, que les gens traduisent par conteur. C'est pas conteur, c'est un raconteur. C'est un raconteur d'histoire. C'était donc un élément intégré et des pratiques sociales. Le café, ou je ne sais pas si vous avez une idée comment ça se passait, le hakawati arrivait, prenait sa chaise et la posait sur une des tables pour que tous les clients le voient. Et il avait très souvent un starbush sur la tête. Il tenait très souvent un livre qui était supposé être le livre qu'il allait nous lire, mais en fait, il ne le lisait pas. Il avait toujours forcément l'index placé entre les pages, comme s'il venait d'arrêter une lecture à un endroit donné du livre, parce qu'il revenait tous les soirs, vous voyez, s'il allait reprendre l'histoire de la veille, ce qui est la même, qui est une reproduction différente, mais une reproduction, une répétition de la structure des nuits, puisque l'histoire s'arrête chaque nuit, etc. Il ne racontait pas d'ailleurs que les mille et une nuits, hein. Il y avait d'autres contes, comme la légende de Antar, la guerre, guerre légendaire chez les Arabes, qui s'appelle la guerre de Dahes Wal-Ghabra, qui est l'histoire d'une guerre entre un très beau cheval et une très belle jument menée, appartenant chacun et chacune à une tribu. Bref, et donc, c'est des épopées. Et il commence à lire, il est installé, et en fait, il raconte. Et c'est pour cela que vous aviez des hakawati, parce qu'il ne lisait pas le même texte, en fait. Il racontait des choses. Et certains qui étaient infiniment plus doués que d'autres. Le problème, c'est que ces lieux-là sont en train de disparaître. Il n'y a plus ce type de café traditionnel. Par exemple, moi j'en ai connu au Liban, par exemple, ça a disparu hier, quoi, quasiment avec le début de la guerre civile, donc dans les années 70. Vous voyez, à Damas, il y en avait aussi, je ne sais pas ce qui va en rester maintenant. Donc il y avait un peu cette très belle tradition où vous veniez dans un café, vous consommiez et vous entendiez. Maintenant, que voulez-vous que je vous dise, c'est un lieu commun. Quand vous allez dans un café, vous n'arrivez même pas à parler avec la personne qui est avec vous parce qu'il y a une télé qui est accrochée dans un coin du mur qui hurle et qui passe de n'importe quoi. Il y a quelque chose qui a changé un peu dans les pratiques sociales. C'est pour cela que... Donc cette forme du récit entendu est en train de disparaître, il ne faut pas se faire d'illusions. Par contre, l'incroyable développement s'est fait au niveau du texte écrit, imprimé, je veux dire, maintenant dans la forme livre. Et là, ça circule, c'est, vous savez, c'est un des textes les plus répandus sur la planète, pas simplement en arabe ou en persan ou en français, mais dans toutes les langues possibles et imaginables. Et donc, il y a un autre rapport. Et qu'est-ce qui a changé dans le rapport? La voix n'est plus là. Parce que ce qui était formidable dans ces soirées de conteurs, c'est la voix du conteur. Hein, c'est le timbre de la voix. C'est pas ça que ça passait. Alors que maintenant, ça passe par les yeux, par votre lecture. Et c'est en train de changer le texte. Ce n'est plus le même texte. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai découvert ça vraiment adulte. Mais je le connaissais très très bien. Par l'oreille, pas par les yeux. Et j'avais pas éprouvé à aucun moment le besoin d'aller les lire. Mais après, bon, maintenant par exemple, il y a un niveau qui m'intéresse beaucoup, qui n'a plus rien à voir avec les conteurs, qui est quelle est l'origine de ces manuscrits, comment ont-ils été conçus, dans quelle langue, est-ce que ça représentait un arabe moyen de l'époque, est-ce que c'est de l'arabe parlé du Caire, de Bagdad, de Tunis, et de Damas, vous voyez? Et cette langue, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que tous les contes viennent du même imaginaire, c'est-à-dire des mêmes lieux, et ainsi de suite? Mais là, on est entré dans l'étude des nuits, et non plus du tout dans ce rapport très très populaire, très spontané, et qui restera le plus beau. Les études sont passionnantes, mais ce qui restera le plus beau, et malheureusement les enfants actuels ne l'auront plus, c'est précisément de l'entendre. C'est pour cela que le fait de les monter sur scène est une façon de les ramener à d'autres vies. Pas la même, hein. Ils ne sont pas en train de refaire une scène de hakawati, de café, en la transposant dans un théâtre. mais de nouveau de le faire entendre, de le faire voir, et surtout de le faire avec liberté, c'est-à-dire de prendre ce matériau et d'en faire des choses. C'est cela qui fait que ce texte va rester vivant. Parce que, vous savez, c'est un texte qui n'a pas de point final. Il n'y a pas un moment où quelque chose dit, ouais, c'est fini, ça y est là, c'est fini. Et c'est sa grande force. C'est pour ça qu'il dure.
Merci beaucoup, Elias Ambar, d'avoir répondu à nos questions. Vous serez là le soir de la première à Marseille ?
Bien entendu, oui.
Bon. Ben, on espère alors vous accueillir. On sera en plateau, en direct de la Criée. On espère que vous aurez un moment pour venir un peu discuter avec nous.
J'espère aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Elias Ambar.
Bon après-midi.
Au revoir. C'était Dans la caverne d'Ali Baba avec Elias Ambar, écrivain, poète, diplomate. Un troisième épisode d'un feuilleton à diffusion aléatoire qui suit les différentes étapes de fabrication du spectacle Ali Baba. Un feuilleton qui se clôturera par une soirée spéciale sur Radio Grenouille de 18h à 20h pour la création du spectacle le 13 mars prochain en direct et en public du Théâtre National de Marseille-la-Criée. Dans la caverne d'Ali Baba, un feuilleton imaginé en partenariat avec la Criée. Vous pouvez écouter, réécouter ou télécharger si vous le souhaitez cet épisode ainsi que les précédents sur le site radiogrenouille.com. Plus d'infos et contacts sur le spectacle sur le site du Théâtre de la Criée, théâtre-lacriée.com.